Il est 7h.
On a toutes les unes les autres, à des soirées différentes, été malmenées, voire agressées, voire forcées par un garçon qui était dans ma classe.
Une étudiante de Sciences Po qui, elle aussi, a subi des violences sexuelles. Le hashtag #SciencesPort dévoile de très nombreux témoignages, mais difficile pour la justice de réagir, car très peu de plaintes sont déposées. C'est le dossier de ce journal. Bien moins désagréable que les PCR, les tests salivaires sont déployés à partir d'aujourd'hui. Ils seront avant tout destinés aux enfants dans les écoles. Dans ce journal, deux policiers mis en examen pour des violences contre le gilet jaune Jérôme Rodriguez, qui avait perdu un œil. Marine Le Pen face à Gérald Darmanin, débat ce soir sur France 2 avec en toile de fond la présidentielle. Et puis, bichonnez vos batteries, car elles sont mises à rude épreuve avec le froid.
Juste après ce journal, le mea culpa de Bruxelles et le plan européen pour monter en puissance sur la vaccination. La Chine à la conquête de l'espace, c'est le regard international de Vincent Hervouette. L'édito sport, Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quand on dit que la parole se libère, ce n'est pas un vain mot. La vague touche maintenant Sciences Po, les différents instituts d'études politiques, avec ce hashtag sur les réseaux sociaux, #SciencesPort. Écoutez d'abord le témoignage de Léa, elle est étudiante à Bordeaux.
Le tout début de l'année, c'est l'intégration. On fait beaucoup de soirées. Et à ce moment-là, avec un groupe d'amis, on a toutes les unes les autres, à des soirées différentes, été malmenées, voire agressées, voire forcées par un garçon qui était dans ma classe à faire des actes sexuels ou diverses choses de ce genre. Ça a été très violent pour nous parce que, enfin, on arrivait dans l'euphorie un peu de la première année, de l'entrée dans les études supérieures et dans la vie d'adulte. Et on a été très vite confrontés à cette violence-là. On m'a très clairement dit, enfin, par des femmes qui étaient en troisième ou en quatrième année. Fais attention dans les soirées, fais attention à l'intégration, fais attention au week-end d'inté. Le CRIT, qui est donc la compétition sportive inter-Sciences Po, je vous en parle même pas. Et là, de voir la quantité de témoignages autour de moi et de personnes que je connais qui ont vécu des choses similaires, ça me donne envie d'en parler. Je me dis qu'il faut que je rejoigne cet effort collectif de libération de la parole.
Voilà Léa qui a accepté de témoigner au micro de Stéphane Place à Bordeaux.
Et à qui on dit fais attention, comme si c'était à elle de faire attention à un témoignage. Parmi des milliers d'autres, des étudiantes dénoncent des violences sexistes et sexuelles. Bonjour Gladys Laffitte.
Bonjour.
Alors le problème, c'est que très peu de plaintes ont été déposées.
Oui, et c'est toute la difficulté pour la justice. Elle a besoin de signalements ou de plaintes pour pouvoir enquêter et éventuellement sanctionner ces agissements. Pour le moment, il n'y a qu'à Toulouse qu'une plainte a été déposée pour viol. C'était samedi dernier. Une étudiante qui aurait été victime d'un autre élève plus âgé. Et dès que le directeur de l'Institut d'études politiques de Toulouse, Olivier Brossard, l'a appris, il a épauler cette jeune fille qui, au départ, voulait rester anonyme.
Je lui ai aussi fait savoir que, de toute façon, j'allais déposer plainte, moi. Puisque la loi nous y oblige, en fait. Il faut savoir que l'article 40 du Code pénal nous oblige, nous, fonctionnaires, à signaler tout fait délictueux. Donc, à partir de ce moment-là, elle était accompagnée. Et puis, ça, voilà, progressivement, elle a cheminé. Et puis, elle a fini par déposer une plainte.
Alors Gladys, très peu de victimes osent déposer plainte, d'où l'importance des signalements. Et comment ça se passe dans les autres instituts d'études politiques?
Alors à Strasbourg, il y a eu un signalement qui a été fait par la direction à la justice, c'était la semaine dernière, pour des faits qui se seraient passés entre étudiants en 2019 et pour lesquels la victime n'avait pas non plus souhaité porter plainte. Autre IEP, à Grenoble, deux signalements au parquet ces dernières semaines, mais toujours aucune plainte déposée. Le procureur de la République, Éric Vaillant, convoquera les deux jeunes femmes pour les entendre et leur proposer de déposer plainte, car pour lui, c'est essentiel. Écoutez-le.
En tant que procureur, moi, je me réjouis plutôt donc, de ces campagnes sur les réseaux sociaux quand elles sont pour une noble cause. Ça permet à tout le monde donc, d'être touché. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Après, il faut qu'il y ait des enquêtes pénales, il faut qu'il y ait des plaintes, il faut que les victimes, à un moment donné, déposent plainte. Sinon, on ne peut rien faire.
Alors à ce stade, dans d'autres villes qui pourraient être concernées, comme Bordeaux, Rennes ou Aix-en-Provence par exemple, aucune plainte n'a été enregistrée. Aucune non plus à Sciences Po Paris, dont le directeur Frédéric Millon a démissionné il y a deux jours après l'affaire Duhamel.
Merci beaucoup Gladys Laffitte. On a bien entendu cette phrase, hein. Les victimes doivent déposer plainte, sinon on ne peut rien faire. Hein. C'est ce que disait le procureur. Et d'ailleurs, la situation inquiète au plus haut niveau. Le gouvernement a convoqué hier soir une réunion avec tous les directeurs d'IEP en France.
7h05 sur Europe 1. Depuis le temps qu'on en parle, ils arrivent. Les tests salivaires, beaucoup moins pénibles que les PCR avec le fameux écouvillon, le goupillon au fond du nez.
Oui, cet après-midi, Jean Castex sera dans une école du 13e arrondissement de Paris avec Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran. Ils lanceront l'expérimentation dans les établissements scolaires car ce sont bien les enfants dans les écoles qui seront les premiers concernés. Les précisions de Mathieu Charrier.
La Haute Autorité de Santé va donner ses recommandations concernant l'utilisation de ces tests salivaires ce matin. Mais sans attendre la publication de ces détails, notamment sur quels modèles seront homologués, les premiers tests seront déployés aujourd'hui dans certains hôpitaux parisiens, a expliqué Olivier Véran, tout en précisant que le public prioritaire reste les enfants dans les écoles. Objectif, identifier rapidement les cas positifs pour préserver justement ces écoles dont nous souhaitons, précise Olivier Véran, qu'elles puissent rester ouvertes le plus longtemps possible. Selon nos informations, les élèves de collège et lycée devraient aussi rapidement pouvoir en bénéficier. Ces tests, comme leur nom l'indique, se font donc avec un simple prélèvement de salive. Il n'est plus nécessaire d'insérer un écouvillon au fond du nez. Le prélèvement est ensuite envoyé en laboratoire pour analyse. Pas question pour le moment de recourir aux autotests salivaires, dont les résultats sont quasi immédiats, mais jugés beaucoup trop aléatoires. Objectif, d'ici mi-février, réaliser entre 200 et 300 000 tests salivaires chaque semaine.
Voilà, des tests salivaires qui devraient être largement utilisés dès la rentrée des congés scolaires. Côté chiffres, le nombre d'hospitalisations ainsi que les entrées en réanimation sont en légère baisse. Près de 2,5 millions de personnes ont reçu au moins une injection du vaccin. Si en France, l'exécutif veut à tout prix éviter un reconfinement, en Allemagne, en revanche, les restrictions sont prolongées pour quasiment un mois jusqu'au 7 mars.
Et nous serons à Berlin dans le journal de 8 heures tout à l'heure. Vous vous souvenez sans doute de Jérôme Rodriguez, cette figure des Gilets jaunes qui avait perdu un œil lors d'une manifestation parisienne en janvier 2019, il obtient une première victoire.
Et oui, deux policiers viennent en effet d'être mis en examen dans cette affaire. Guillaume Biais.
Il aura fallu 2 ans pour que l'enquête en arrive à ses poursuites. Un long travail de l'IGPN, la police des polices et des expertises pour amener le juge à identifier les deux policiers soupçonnés d'avoir blessé Jérôme Rodriguez et un autre manifestant au même moment. C'est dans une vidéo sur ses réseaux sociaux hier soir que le leader Gilet jaune a annoncé et commenté ses mises en examen.
J'ai pu avoir accès au rapport de l'IGPN seulement, qui met en avant pas mal d'irrégularités de la part des policiers qui ont agi à ce moment-là sur le terrain, des gros manquements à la déontologie, des gros manquements au savoir-faire, à la formation. Mais l'information importante, c'est de savoir que les policiers sont mis en examen et que normalement, si tout se passe bien, il y aura jugement.
Un futur procès qui pourrait même se tenir devant une cour d'assises puisque le policier soupçonné de l'avoir blessé est poursuivi pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation, un crime puni de 15 ans de réclusion.
Guillaume Biais.
18 départements de la moitié nord sont placés ce matin en vigilance orange à cause du froid, de la neige ou du verglas. Laurent Cabrol le disait, encore des températures glaciales ce matin.
Oui, ça met nos organismes à rude épreuve et pas seulement, les batteries de nos voitures aussi, comme le constatent les garagistes ces derniers jours à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Le reportage de Lionel Gougelot.
C'est une vieille voiture, une vieille batterie, avec le froid, elle n'a pas tenu le choc. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé de batterie et je pense que ça doit être ça, elle a rendu l'âme.
Et Malika n'est pas la seule automobiliste à être venue changer sa batterie à plat dans ce centre Norauto de Villeneuve-d'Ascq. À l'atelier, témoigne Khalid, c'est presque un travail à la chaîne.
Le contexte actuel avec le Covid, les personnes roulent moins avec leur véhicule. Donc du fait de laisser le véhicule sur place et de ne pas rouler, déjà ça baisse l'intensité de la batterie. Et avec les grosses variations de température, ça donne un coup à la batterie, ça les endommage. Et donc on doit changer énormément de batterie. Hier, on a dû fermer un peu plus tard que prévu parce qu'il y avait beaucoup de clients qui sont venus pour des batteries et pour ne pas les laisser en rade, on a fait les batteries.
Un froid polaire sans pitié pour les automobiles à l'entretien défaillant. D'où ce petit conseil supplémentaire d'Anthony Ferromillon, responsable du marché atelier. Pensez à bien vérifier régulièrement tous les niveaux.
C'est important de le faire parce que le moteur il est quand même soumis à certaines contraintes en hiver et il faut s'assurer que le niveau d'huile soit bon pour éviter justement de sursolliciter le moteur. Et il y a un liquide qu'il va falloir faire attention et où il faut être vigilant si on doit faire la pointe, c'est le liquide de refroidissement. Le liquide contient un antigel et il ne faut pas s'amuser à compléter avec de l'eau parce que comme quand on a des températures qui sont négatives, malheureusement on peut geler le liquide de refroidissement et ça a des conséquences sur le véhicule.
Et pour les pneumatiques, le choix le plus judicieux reste celui des pneus 4 saisons. Là aussi la demande est en augmentation. À Villeneuve-d'Ascq, Lionel Bougelot, Europe 1.
Voilà, on a bien noté. Attention à bien vérifier les niveaux et surtout le liquide de refroidissement. Amazon recrute, le géant américain annonce la création de 3000 emplois supplémentaires en France, des CDI à pourvoir à la fois dans les entrepôts mais aussi au siège du groupe. Le président d'Amazon Logistique France, Ronan Bollet, l'évoquait ce matin sur Europe 1 à 6h40.
Et des emplois que vous pouvez retrouver bien sûr sur la carte interactive de notre site dans le cadre de l'opération Europe 1 Solidaire. Nous sommes solidaires de la jeunesse qui vit une période particulière. Retrouvez cette carte interactive avec toutes ces offres d'emploi d'Amazon et d'autres bien sûr.
7h10 sur Europe 1. Dans un instant, on parle des 100 000 œuvres du Louvre qui viennent d'être transférées à Liévin, près de Lens. Mais d'abord, un duel très attendu. C'est ce soir sur France 2, Gérald Darmanin face à Marine Le Pen.
Oui, la présidente du RN apportera la contradiction au ministre de l'Intérieur au menu de grands sujets régaliens comme le séparatisme, l'immigration ou la sécurité. Un débat aux airs de galop d'essai avant la présidentielle de 2022. Aurélie Herbemont.
Gérald Darmanin et Marine Le Pen auront un point commun ce soir. Tous deux sont convaincus que les questions régaliennes seront au cœur de la campagne présidentielle. Alors chacun fourbit ses armes et aucun des deux n'a droit à l'erreur. L'enjeu pour Gérald Darmanin, montrer que les solutions d'extrême droite relèvent de l'escroquerie intellectuelle et que les réponses du chef de l'État sont à la hauteur. Pour Marine Le Pen, il s'agit d'apparaître crédible et posée, histoire de faire oublier son débat raté face à Emmanuel Macron en 2017. On est sûr de nous sur les thématiques immigration et islamisme, se vante un proche de la candidate. Et si depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron joue à fond la carte du match retour, aujourd'hui un ministre s'alarme. Il n'y a pas qu'elle dans la vie, il ne faut pas l'installer en opposante numéro 1. À l'heure où des sondages montrent qu'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle n'est pas inconcevable, l'enjeu n'est effectivement plus tout à fait le même.
Un débat qui tombe à pic, c'est l'édito politique. Nicolas Bétou à 7h50, tout à l'heure sur Europe 1.
Et Marine Le Pen qui, selon un sondage IFOP fiducial publié ce matin, arrive à la deuxième place des personnalités qui feraient mieux qu'Emmanuel Macron si elles étaient au pouvoir. En tête, l'ex-premier ministre Édouard Philippe. Sachez aussi que la présidente du RN comparaissait hier devant la justice avec Gilbert Collard pour avoir posté sur Internet des photos d'exaction de Daesh en 2015. Le parquet de Nanterre a requis 5000 euros d'amende, décision en mai.
Et si la crue de la Seine devenait catastrophique au point d'inonder les réserves du musée du Louvre et leurs trésors inestimables? C'est pour éviter ça que plus de 100 000 œuvres ont été transférées au nouveau centre de conservation de Liévin près de Lens.
Oui, des pièces archéologiques pour la plupart qui sont maintenant en lieu sûr. Une opération qui aura pris du temps, mais ça en valait la peine. Reportage à Liévin, Diane Chenouda.
En un an et au rythme de 4 semi-remorques par semaine, 100 000 œuvres stockées dans les sous-sols inondables du Louvre ont pu être acheminées jusqu'au centre ultramoderne des réserves de Liévin. Brice Mathieu, le directeur du centre.
L'immense majorité de nos très grands formats et des œuvres qu'on n'aurait pas pu remonter, quoi qu'il arrive, il y a quelques années, sont aujourd'hui en sécurité.
C'est le cas par exemple de ces 2000 sculptures romaines, désormais à l'abri dans cette immense réserve de 2000 m². Jean-Luc Martinez, le directeur du Louvre, est soulagé.
Ça a été vraiment une urgence parce que vous voyez que ces sculptures, le marbre c'est très simple, c'est 2,5 tonnes au mètre cube, vous ne pouvez pas les déplacer comme ça. Donc là, ça a été une des priorités de sauver cette collection et de la porter ici.
Les œuvres sont bichonnées, restaurées s'il le faut et rangées chacune à leur place, comme ces 2000 figurines en terre cuite dont s'occupe Isabelle Asselin, conservatrice au département des antiquités grecques et romaines.
Le fait de les avoir préservées ici dans le centre, effectivement, fait que nous ne sommes plus inquiets par rapport à cette eau de la Seine que nous voyons de nos bureaux monter de plus en plus en ce moment. C'est vrai que c'est un soulagement.
Il reste encore 20% des collections en zone inondable à Paris, 20 000 objets, mais ceux-là pourront facilement être remontés aux étages en cas de crue.
Diane Chenouda à Liévin.
Le football. Hier soir, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France. Victoire 1-0 à Caen.
Oui, mais grosse inquiétude pour Neymar qui a quitté le terrain après un choc et souffre d'un adducteur. On connaîtra dans la journée la gravité de cette blessure. Mais ça tombe mal à 5 jours du match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Et puis, on apprend ce matin la mort de Larry Flint, le roi du porno américain, fondateur du magazine Hustler, le concurrent de Playboy. Il avait 78 ans. Milos Forman lui avait consacré un film en 1996. L'un de ses derniers coups d'éclat, c'était en 2017. Il offrait 10 millions de dollars à quiconque fournirait une information permettant la destitution de Donald Trump.
Merci beaucoup Hélène Zelani. C'était le 1996, le film de Milos Forman. J'ai vu, j'avais 12 ans. Mais j'aurais pas dû le voir à 12 ans ce film. Merci Hélène Zelani, il est 7h14 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.